de géographes, de missionnaires, enfin d'explorateurs, etc., de commerçants, bon, qui fournissent des informations intéressantes. Marco Polo fournit des informations intéressantes, par exemple, va tenter, l'anthropologue, dans un domaine, cette fois-ci thématique précis, sur un sujet précis, de dresser un tableau d'ensemble à la recherche de lois, comme il en existe en physique, mais de lois pour prévoir, pour expliquer le monde social, de lois et d'invariants, je reviendrai sur la notion d'invariant, qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement des sociétés humaines et donc à la recherche de ce qui est universel sous la bigarrure des diversités. L'ethnologie permet de faire l'inventaire de cette bigarrure des diversités et l'anthropologie, à partir de cette bigarrure qui est indispensable à connaître, s'efforce de déceler quelles sont les lois qui permettent ces agencements. Ainsi, si je suis l'ethnologue des Samo, je suis par ailleurs une anthropologue, mais une anthropologue des systèmes de parenté et des systèmes d'alliance. On entend par là les règles qui, dans chaque société, régissent la manière dont on choisit son conjoint, choix qui n'est pas laissé au hasard, ni au libre arbitre, contrairement à ce que l'on pourrait croire dans nos sociétés, et aussi spécialiste également du rapport entre les sexes, c'est-à-dire du thème dont je vais parler aujourd'hui, très succinctement. Alors, j'ai eu une carrière de chercheur et plus tardivement d'enseignante, une enseignante un peu privilégiée puisque j'ai enseigné en troisième cycle, c'est-à-dire pour le doctorat, à l'École des hautes études ou au Collège de France. Mais comme chercheur, j'ai travaillé pendant des années au Centre national de la recherche scientifique, puis à l'École des hautes études en sciences sociales et aussi au Collège de France. Et mon enseignement, donc, a été un enseignement très particulier puisqu'il s'agissait d'enseigner la recherche en train de se faire. C'est-à-dire non pas enseigner ce qui est connu dans des manuels et ce qui est transmissible directement, par exemple, dans des enseignements scolaires ou universitaires, mais d'enseigner ce que l'on est en train de découvrir, ce qui est tout à fait différent. Ça représente une ascèse d'esprit un peu particulière, donc, et qui oblige à être en permanence dans le questionnement, son propre questionnement, et sur le qui-vive. Sur le qui-vive, à l'approche des faits et à l'approche de l'attention que peuvent porter les autres. Alors, c'est en anthropologue que je me suis intéressée à la question du rapport hiérarchique établi entre les sexes, mais seulement assez tardivement et à partir des années, disons, 80. Et je m'y suis intéressée comme la conséquence logique de travaux que j'avais menés antérieurement pendant une vingtaine d'années, sur la problématique de la parenté et du choix du conjoint, dont je ne vous parlerai pas, mais dont il est possible que ce soient des questions qui viennent dans la discussion tout à l'heure. Questions, en fait, qui sont centrales dans notre discipline. La parenté et l'alliance, c'est le cœur de la discipline anthropologique, et qui pose d'ailleurs toujours bien des problèmes qui ne sont pas tous résolus. Et j'ai apporté de mon côté, par exemple, une réponse à l'aide de l'informatique sur une question anthropologique classique qui était celle du fonctionnement des systèmes semi-complexes d'alliance. Donc je ne vous en parlerai pas, mais c'est pour vous dire qu'il y a des questions très trapues, bon, et qu'on ne peut résoudre qu'avec des calculs de type informatique ou mathématique. Ainsi, par exemple, j'avais remarqué toute une série de faits troublants dans le domaine de la parenté ou du choix du conjoint. Et pour prendre un seul exemple, dès que l'on trouve des lois écrites dans le domaine civil, et notamment sur la question de la prohibition de l'inceste et du mariage, et des lois écrites, les plus anciennes que l'on trouve, ce sont celles du code d'Hammurabi, en Assyrie, ou des codes hittites en Asie mineure qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ, eh bien on s'aperçoit que ces règles, elles ne sont formulées qu'au masculin. Alors, elles ne peuvent être formulées qu'au masculin. On vous dit par exemple, un homme ne peut pas épouser la sœur de son père, un homme ne peut pas épouser la femme de son fils, etc. Et puis, mais il n'y a jamais de règles formulées au féminin. Alors, ça peut se comprendre, parce que les lois formelles de réciprocité et de symétrie font que quand on dit une loi au masculin, on formule aussi son réciproque ou son symétrique. Par exemple, si je dis qu'un homme ne peut pas épouser la sœur de son père, ça veut dire qu'une femme ne peut pas épouser le fils de son frère. Représentez-vous, si un homme ne peut pas épouser la sœur de son père, la sœur de son père, une femme, ne peut pas épouser le fils de son frère. Donc ce n'est pas la peine de le dire, puisque c'est induit par la réciprocité ou également la symétrie, mais je ne parlerai pas ici de la symétrie. Et puis il arrive de temps en temps qu'il y a des règles qui devraient être dites au féminin. Eh bien, elles ne sont pas dites au féminin. On trouve une circonlocution très compliquée pour pouvoir le dire au masculin. Et c'est ce genre de choses qui a attiré mon attention. Par exemple, dans un code hittite, vous allez trouver toute une série d'interdictions pour un homme, et puis on vous dira tout d'un coup qu'un homme ne peut pas épouser les deux sœurs et leur mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la prohibition de l'inceste, généralement, ça porte sur des consanguins. Or, on ne vous dit pas que ces deux sœurs et leur mère sont des consanguines de cet homme. Pour quelle raison un homme ne peut pas épouser les deux sœurs et leur mère? Eh bien, c'est parce qu'on a été obligé de dire au masculin une interdiction qu'il aurait fallu formuler au féminin, en disant qu'une femme ne peut pas épouser le mari de sa mère, le mari de sa sœur ou le mari de sa fille. Bon. Et on ne peut pas le dire au féminin. Pourquoi? Eh bien, on ne pouvait pas le dire au féminin parce que dans ces sociétés, le seul sujet de droit qui pouvait prendre la parole et qui était donc une personne au sens complet du terme, ça ne pouvait être qu'un homme. Et donc, quand l'interdiction aurait dû être dite au féminin, on ne pouvait la dire qu'au masculin par toute encore une fois, des circonlocutions, toute une gymnastique verbale qui est tout à fait intrigante pour les traducteurs. Et les traducteurs qui sont des historiens de l'Antiquité, les traducteurs allemands, par exemple, de ce texte, s'interrogeaient beaucoup pour savoir qu'est-ce que voulait bien dire cette prohibition. Et puis jusqu'à ce que je dise, ben c'est tout bête, c'est simplement l'envers au féminin des trois prohibitions dites au masculin qu'un homme ne peut pas épouser la femme de son père, la femme de son frère, la femme de son fils. Une femme ne peut pas épouser le mari de sa mère, le mari de sa sœur, le mari de sa fille. Mais on ne le dit pas au féminin, on va le dire à l'homme. Symétrique. Ça veut dire très clairement une femme ne peut pas être une personne du point de vue du droit. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Bon. C'est quand même intéressant. Donc c'est une des raisons pour lesquelles donc, je me suis intéressée à cette question. Alors plus généralement, ce qui m'a frappée, c'est le caractère universel de quelque chose que j'ai appelé la valence différentielle des sexes. Et qu'on traduit globalement par sa conséquence qui est la domination masculine. Et ça, effectivement, c'est un fait qui interroge l'esprit. La valence différentielle des sexes, c'est un concept que j'ai mis sur le marché, si vous voulez, et qui implique une forme d'équation qui est fondée sur une observation globale, constante. Une équation qui est fondée sur le fait que, aussi surprenant que ça puisse vous paraître comme prise de position, que les parents naissent avant les enfants et qu'ils ont autorité sur leurs enfants et que les aînés sont considérés comme des parents par rapport aux cadets et que vous trouvez une forme constante dans les organisations sociales. C'est une équation qui dit que les parents... que les aînés par rapport à leurs cadets sont comme les parents... par rapport à leurs enfants, de telle manière qu'ils sont supérieurs par rapport à leurs enfants parce qu'ils sont antérieurs, qu'ils sont nés avant. Que l'antériorité vaut supériorité et le fait d'être antérieur et supérieur implique l'autorité des parents et des aînés sur les enfants et les cadets. Eh bien, le rapport masculin-féminin est venu se loger là-dedans et c'est ça que je vais essayer d'expliquer en établissant une équation qui dit que les hommes sont par rapport aux hommes, aux femmes, comme les parents sont par rapport aux enfants et les aînés par rapport aux cadets, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme supérieurs parce que antérieurs, nés avant. Et il y a de cela toute une série d'éléments de preuve que je ne vais pas vous citer. Par exemple, pour n'en prendre qu'un, le droit romain qui disait extrêmement clairement que l'épouse occupe la... par rapport au mari, que l'épouse occupe la place de la fille. Je peux vous le dire en latin, je vous le dis en français. Uxor obtine filiae locus. L'épouse occupe la place de la fille par rapport au mari. Donc, mais pourquoi est-ce que cette valence différentielle des sexes que je viens de vous exposer sous sa forme d'équation est un fait qui interroge l'esprit? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de faits culturels universels. Essayez d'imaginer des faits culturels universels, universels dans leur nécessité à être, sinon dans leur extension, c'est-à-dire les différents cas qu'ils peuvent recouvrir. Lévi-Strauss, ainsi, a isolé dans les structures élémentaires de la parenté, en 1949, il a isolé comme fait culturel universel qui lui paraissait unique le fait de la prohibition de l'inceste. Il n'y a pas de société qui fonctionne sans une prohibition minimale, au moins, de l'inceste. Mais la prohibition de l'inceste, lui, il en fait d'ailleurs le seuil entre nature et culture. La prohibition de l'inceste, naturellement, peut avoir des extensions variées. Chez nous, elle est, disons, la façon la plus courante, elle est comptée sur un mode généalogique en degré de consanguinité. Bon, mais il y a des sociétés où ce sont des groupes entiers qui peuvent être interdits. Et puis, encore une fois, l'extension est variable, plus ou moins grande selon les sociétés, mais il n'y a pas de société qui n'ait au moins une prohibition minimale de l'inceste, c'est-à-dire l'interdiction d'épouser ses enfants, l'interdiction d'épouser ses parents, ou l'interdiction d'épouser ses frères et ses sœurs. Ça, c'est, disons, au minimum. Bon. Alors ça, c'est un fait universel. Et Lévi-Strauss se montre ce fait universel comme étant indispensable à la création de la société, parce que la prohibition de l'inceste a obligé les groupes humains à sortir d'eux-mêmes. Alors imaginez à l'aube de notre histoire humaine. Alors, bon, quand nous parlons de l'aube de l'histoire humaine, je pourrais remonter extrêmement loin, puisqu'on découvre à l'heure actuelle des sociétés avec des instruments en pierre taillés, non pas des objets utilisés par des primates, non, des outils en pierre taillée, qui remontent à 2,5 millions avant Jésus-Christ. 2,5 millions avant Jésus-Christ. Donc un homo faber, c'est-à-dire un homo capable de construire des objets, de 2,5 millions avant Jésus-Christ. Alors, on ne sait rien de la vie sociale de ces individus, comme vous pouvez vous en douter. Mais on commence à savoir des choses à partir, disons, de 400 000, 300 000 avant Jésus-Christ. 400 000, 300 000 avant Jésus-Christ, c'est l'homme de Néandertal, qui est assez proche de nous, puisque vous savez que maintenant, on sait que nous avons 5% de nos chromosomes communs avec l'homme de Néandertal. Et c'est aussi notre genre à nous, le seul qui maintenant peuple le monde entier, c'est-à-dire Homo sapiens sapiens. C'est notre espèce. Elle couvre le monde entier. Bon. Et c'est seulement à partir de cette époque que nous pouvons avoir une petite idée de la manière dont ces gens-là, je ne dis pas pensaient, mais au moins une petite idée dont ils abordaient le monde, parce qu'ils ont laissé des traces avec des sépultures notamment, avec des objets, pas seulement une industrie lithique, mais enfin on peut imaginer un certain nombre de choses. Et l'imaginaire de nos sociétés actuelles, et puis à travers aussi naturellement l'étude très exacte, très pointilliste des sédiments, enfin puis que font les préhistoriens, nous montre que vraisemblablement, disons il y a 300 000 ou 400 000 ans avant Jésus-Christ, le monde était peuplé. D'abord, on n'était pas très nombreux, peut-être même pas 1 million d'individus au total. Je dis tout cassé hein, sur l'univers tout entier, sur la planète tout entière. Et l'homme vivait en petits groupes consanguins, qui se reproduisaient sur eux-mêmes. C'est-à-dire où vraisemblablement, il y avait un mâle dominant qui possédait toutes les femelles, et sans tenir compte des rapports de consanguinité. On se reproduisait sur ces forces consanguines. Seulement, pour que la chose puisse durer, il fallait que les groupes soient durables. Or, il pouvait arriver que par des accidents démographiques, le sexe ratio, par exemple, qui faisait naître plus de garçons que de filles, trop de mortalité en couche, des maladies, des épidémies, il pouvait arriver qu'un groupe consanguin n'ait plus de femmes à sa disposition. Donc pour survivre, il était obligé d'aller en prendre à l'extérieur. Donc le schéma que nous avons en tête, c'est l'idée de groupe consanguin qui, selon une formule utilisée par un anthropologue de la fin du 19e siècle, Taylor, était que les groupes humains ont dû choisir très tôt entre deux nécessités, soit se faire tuer à l'extérieur, soit se marier à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on prend, qu'il fallait les prendre, son conjoint parmi ses ennemis potentiels. Donc, et donc, comment faire? Et c'est ça la grande hypothèse des Lévi-Straussiennes, la prohibition de l'inceste est une loi universelle qui obéit aux mêmes causes et qui a été édictée à peu près au même temps, c'est-à-dire sur plusieurs millénaires, pour toutes les sociétés humaines, pour les mêmes raisons, et qui consiste à dire que, écoutez bien, les hommes d'un groupe s'interdisent de coucher avec leur fille ou avec leur sœur, pour ne pas parler de leur mère, de façon à pouvoir échanger ses filles et ses sœurs avec les filles et les sœurs des hommes appartenant à d'autres groupes qui leur donneront en échange leurs filles et sœurs comme épouses. Je ne touche pas à ma sœur, je te la donne et tu me donnes ta sœur. Vous voyez, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, il se passe la création de liens d'alliance. Vous riez, mais c'est comme ça que les choses se passent encore dans bien nombre de sociétés humaines. Hein. C'est-à-dire que les filles sont données selon des lois d'échange qui sont des lois masculines. Les lois masculines, elles ne s'appartiennent pas, elles ne choisissent pas. Leur père ou leur frère décide du sort de ses filles et en général, il y a un rendu pour la famille. Bon. Et c'est encore vrai dans un grand nombre de sociétés humaines de nos jours. Bon. Donc l'idée, c'est celle-là, c'est qu'il a fallu s'interdire l'accès aux femmes de son groupe pour pouvoir obtenir des épouses et instaurer la paix, instaurer la société, instaurer les échanges. Parce qu'avec cet échange matrimonial suivent les échanges politiques, les échanges économiques, les échanges culturels. Et pour vous faire mieux comprendre qu'avec ces termes abstraits, eh bien je vous citerai la réponse que faisait un informateur. Oui, parce qu'on parle d'informateur quand on parle des personnes qui répondent à nos questions. Un informateur de Margaret Mead, une grande anthropologue américaine qui travaillait dans des îles du Pacifique, et à la question faussement naïve, bien sûr, qu'elle lui posait en lui disant « Mais pourquoi n'épousez-vous pas vos filles et vos sœurs? Et pourquoi allez-vous chercher les filles et les sœurs des autres groupes ?» Et ils lui ont répondu « Mais il faudrait être idiot. Parce que si j'épouse ma sœur et que j'ai des enfants avec elle, supposons que j'ai deux enfants avec elle, à nous deux, nous n'aurons que deux enfants. Mais si je donne ma sœur à un autre et qu'il me donne sa sœur et que nous ayons deux enfants, ça en fera quatre. » Et non pas deux. Et d'une, c'est que tu as un très bon calcul en soi. Et il dit, mais en plus de ça, mais si j'épousais ma sœur, écoutez bien, je n'aurais pas de beau-frère. Si j'épouse ma sœur, je serai mon propre beau-frère. Bon, si j'épouse ma sœur, je n'aurai pas de beau-frère. Et si je n'ai pas de beau-frère, avec qui est-ce que j'irai chasser? Avec qui est-ce que j'irai boire? Avec qui est-ce que j'irai parler? Avec qui est-ce que j'irai m'amuser? Donc les beaux-frères, c'est aussi la relation, c'est la convivialité, c'est la relation d'alliance, c'est la paix, c'est la convivialité. Donc la prohibition de l'inceste, c'est ça. C'est ça, c'est l'obligation faite par les humains et qui a dû se faire, encore une fois, sur plusieurs millénaires. Ça ne c'est pas quelqu'un qui a décrété ça un jour. C'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets pour que la société existe et que la paix fonctionne. Bon. Seulement voilà. Alors, je dis que la valence différentielle des sexes, c'est également un fait culturel universel. D'abord parce qu'il est vrai que l'expérience le montre, l'expérience ethnologique, il n'y a aucune société au monde où on ne retrouve cette valence différentielle des sexes. Elle existe partout. Elle existe partout. Et elle devait, à mon avis, exister en même temps. Au moment où a été édictée la prohibition de l'inceste, pour parler vaste, parce que Et ça, Lévi-Strauss ne l'a pas vu, parce qu'il fonctionnait en 1945, quand il écrivait, avec la mentalité de son époque, et il a gardé la mentalité de son époque, comme Freud avait la mentalité de son époque toute sa vie. Il ne l'avait donc pas vu, parce que pour échanger leurs filles et leurs sœurs, et parler au masculin, et dire que c'est les hommes qui échangent entre eux leurs filles et leurs sœurs, et non pas l'inverse, et ce ne sont pas des femmes qui échangent entre elles leurs frères et leurs fils, il fallait bien qu'ils en aient déjà le droit reconnu. Il fallait bien que ça ne soit pas choquant. Il fallait bien que ça soit la norme. Et donc la valence différentielle des sexes, c'est aussi un phénomène universel, un phénomène culturel universel. Et la raison, la question que je me suis posée, c'est d'où vient sa validité ? D'où vient son existence ? À quoi cela tient-il ? Est-ce que c'est quelque chose qui est inéluctable ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose dont on peut sortir ? Mais pour répondre à la question de l'inéluctabilité, qui est souvent celle qui est opposée, ça serait un fait de nature, il fallait essayer de comprendre comment on en était arrivé, par quel type de raisonnement les hommes de la préhistoire en sont venus à construire cette valence différentielle des sexes qui était donc déjà là, dès les origines. Et ma question est donc de nature proprement anthropologique et non pas historique, ou sociologique, même si ce sont des questions importantes de se représenter la réalité des choses telle qu'elle est maintenant, il s'agit pour moi de répondre à la question pourquoi ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Et comment cela s'est fait ? Et surtout, comment est-ce que cela s'est perpétué ? Comment est-ce que cela s'est perpétué ? Alors, je vous ai parlé d'universalité, parce qu'il est vrai qu'on ne connaît pas de société où les femmes échangent entre elles des hommes. Il y a quelques sociétés matrilinéaires, c'est-à-dire qu'on appelle de droit maternel ou de filiation matrilinéaire, où la filiation est comptée par les mères, la mère de la mère, etc., et non pas par les hommes, et qui sont des sociétés non pas rares, hein, il y en a quand même un certain nombre de par le monde, mais des sociétés qui sont assez difficiles avec notre esprit occidental et surtout dans des sociétés où la filiation est comme chez nous cognatique, c'est-à-dire est reconnue par toutes les lignes. Vous avez 8 lignes de filiation par rapport aux arrière-grands-parents, 4 par rapport aux grands-parents, 2 par rapport aux parents, bien sûr, mais vous pouvez hériter de vos arrière-grands-parents ou succéder à un arrière-grand-père par n'importe quelle ligne. Ben, il faut imaginer des sociétés où il n'y a qu'une seule ligne qui est reconnue. La ligne passant par les pères, c'est la patrilinéarité, le père du père, le père du père du père, et toutes les autres lignes ne comptent pas. Elles sont reconnues comme consanguines, et pour la transmission des droits et des devoirs, il n'y a que la ligne passant par les pères. Et puis il y a des sociétés où ça passe par la mère. La mère, la mère de la mère, la mère de la mère de la mère, et toutes les autres lignes ne comptent pas. Seulement, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit des sociétés matriarcales. Ça veut dire que dans ces sociétés-là, ceux qui ont le pouvoir, ce sont des hommes aussi, mais non pas comme père ou comme mari, ce qui est le cas dans nos sociétés de droit cognatique ou de droit patrilinéaire, mais ont des droits parce qu'ils sont les frères des femmes ou qu'ils sont les fils des femmes. Imaginez une société, donc, où la filiation passe par les femmes, mais celui qui a le pouvoir dans la famille, c'est le frère d'une femme, il est l'oncle maternel, les enfants de sa sœur sont ses neveux utérins, ils appartiennent à la même famille, au même lignage, le mari de cette femme qui est le père des enfants n'a aucun droit, c'est l'oncle maternel qui a des droits, le frère de la mère. Et donc c'est quand même les hommes qui ont le pouvoir. Bon. Mais il y a quand même quelques sociétés de ce type où les femmes ont, disons, un mot à dire sur le choix du conjoint, mais c'est toujours avec l'accord de l'oncle maternel, si ce n'est avec l'accord du père, c'est toujours un homme quand même qui décide, mais ce n'est pas un père ou un mari, c'est un oncle maternel qui va décider, ou un frère qui décide. Donc pas de matriarcat. Si on vous parle de matriarcat primitif, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Il faut vous dire par ailleurs que ces systèmes dont je vais parler, de pensée dont je vais parler, dont je pense qu'ils ont été fondés, disons, autour de 300 000 ou 400 000 ans avant Jésus-Christ, ont vu la situation des femmes s'aggraver avec les religions révélées. les religions révélées, c'est-à-dire les religions dites du livre, les grandes religions du livre, c'est-à-dire en fait le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et les grandes religions du livre, elles ne sont pas apparues en apportant un message divin, elles ont proliféré sur ce qui était antérieur, mais elles y ont en plus greffé quelque chose de plus. Elles ont fait de cette hiérarchie qui existait déjà un diktat divin, alors qu'en fait, il s'agissait bien de quelque chose qui avait été inventé par les hommes. Et à chaque fois donc qu'on trouve ce modèle, on va trouver également des pratiques, des comportements attendus pour chacun des sexes et des jugements de valeur qui accompagnent la place de chacun des individus selon son sexe et ses comportements attendus, et ses pratiques, ses comportements attendus, ses jugements de valeur, eh bien c'est ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire non pas la catégorisation par le sexe seulement, mais par ce qu'on attend socialement de chacun des individus, parce qu'il est né avec cet appareil génital masculin ou féminin, et qu'il y a donc un dressage éducatif qui fait que ça sera reproduit toujours de la même manière. Le corps sexué tout seul ne porte pas en lui la hiérarchie. Elle n'est pas naturelle. Elle n'a pas une source biologique. C'est une création de l'esprit. Et cette création de l'esprit a sa logique. Et c'est de cette logique dont je voudrais vous parler tout à l'heure. Le dressage qui est fait, c'est un dressage immédiat, dès la naissance, qui est fait par l'éducation dans les sens attendus par la société pour chacun des deux sexes. Je vais vous en donner trois petits exemples qui ont tous trois exemples qui ont chacun leur intérêt parce que ils sont pris dans des sociétés, dans des périodes différentes. Le premier est sur mon propre terrain en pays Samo, je vous ai dit, au Burkina Faso, où j'avais remarqué un phénomène pas vraiment curieux ni étrange, mais qui suscitait tout de même l'intérêt. C'était le comportement différentiel des femmes qui ont des bébés qu'elles portent dans le dos et qui va qu'à leurs occupations avec le bébé attaché dans le dos, avec un pagne. Et ces femmes, elles reviennent en portant de l'eau, elles reviennent en portant du bois, elles pilent du mil, elles font cuire, elles vont qu'à toutes sortes d'occupations. Et de temps en temps, le bébé pleure et il réclame le sein. Et sans qu'on puisse prédire, de temps en temps, les femmes s'arrêtent immédiatement et donnent le sein à l'enfant. Et puis, d'autres occurrences, elles font comme si elles ne l'attendent pas. Elles continuent de vaquer à leurs occupations. Elles ne lui donnent pas le sein. Ou même parfois, le bébé les irrite et elles vont ôter leur pagne, prendre le bébé et le fourguer à une gamine qui passe par là pour qu'elle s'en occupe. Bon. Moi, je mettais ça sur le compte du tempérament de chacune des femmes, plus ou moins attentive à son bébé, ou bien l'urgence de la situation, l'urgence de la tâche à accomplir. Et puis, en y regardant de plus près, je me suis aperçue que c'était les petits garçons, quand ils pleuraient, que les femmes arrêtaient tout pour leur donner le sein, alors que si c'était une fille, on la faisait attendre et qu'on la confiait à une enfant nourrice. C'était quand même curieux. Et donc, j'ai posé la question à toutes ces femmes que je voyais faire de la même manière, en leur demandant à chaque fois, mais pourquoi est-ce que vous procédez de la sorte? Pourquoi est-ce que ce bébé qui pleure, votre petit garçon, vous lui donnez à boire tout de suite, alors que votre sœur, elle fait attendre sa petite fille? Et j'avais à chaque fois la même réponse, et qui tient compte de la façon idéale dont les gens imaginent le genre masculin et le genre féminin. On me disait, ben voilà, les hommes et les garçons ont le cœur rouge. Fourou, ça veut dire rouge. Mais fourou veut dire aussi rapide, impétueux, colérique, etc. Et comme ils ont le corps rouge, ils peuvent se mettre facilement en colère. Et quand ils sont enfants, la colère peut les tuer. Et donc, si nous ne voulons pas que la colère les emporte, il faut leur donner satisfaction tout de suite. Donc, on leur donne à boire tout de suite. On ne les fait pas attendre. Alors, un argument biologique, vous le voyez, physiologique, disons. Ils ont le corps rouge, on ne peut pas les faire attendre. Alors que pour les filles, on utilisait un argument sociologique. On me disait, les filles, elles devront attendre toute leur vie et elles ne seront jamais satisfaites dans leurs désirs. Alors, il faut le leur apprendre tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'on fabriquait de façon délibérée, mais inconsciente, mais délibérée quand même, la société fabriquait à travers ses représentations de genre, ce que j'appelle deux races, parce que là, il s'agit bien de deux races d'individus extrêmement différents, les uns qui considéreront toute leur vie que tout leur est dû immédiatement et que leurs désirs sont des ordres et que leurs pulsions doivent être satisfaites et qu'ils trouveront ça normal. Il y a pas de, pourquoi le leur reprocher ? Ils trouveront ça normal. C'est comme ça qu'on les aura éduqués dès le départ. Et puis les autres qui trouveront tout aussi normal de devoir toujours attendre. Et ça, c'était le courant des jours. Ça se passait, je le voyais, tous les jours. Bon. Et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Mais en fait, pour vous dire, là, je l'ai vu de mes propres yeux chez les Samos. Maintenant, je vais vous lire quelque chose d'autre. Ça vient, ça sort d'un roman qui a été écrit à la fin du 19e siècle, en 1848, par une femme que vous devez connaître et que vos professeurs d'anglais ou même de français ont dû vous citer. C'est Anne Brontë. C'est la dernière des trois sœurs Brontë, Charlotte, Émilie et Anne. Et Anne est la moins connue et pourtant elle a écrit des romans absolument remarquables pour bien comprendre ce que c'était que la société victorienne. Et là, je vous lis quelques petits passages d'un livre qui s'appelle La recluse de Whitefield Hall. Et c'est une jeune fille, c'est son frère qui écrit une lettre à un ami et qui lui raconte la révolte de sa sœur. Et la révolte de sa sœur qui dit « C'est toujours ainsi, s'il y a quelque chose de particulièrement bon sur la table, maman cligne de l'œil et me fait signe pour que je m'en abstienne. Et si je n'y fais pas attention, elle me chuchote « N'en prenez pas trop, Rose, Gilbert sera content de le trouver pour son dîner. Je ne suis rien de rien. » Alors elle explique toutes sortes de règles à la cuisine où il faut qu'elle fasse des choses pour les garçons, pour ses frères. Et alors elle dit « Mais maman, mais si je n'aime pas la chose ainsi, enfin le cake ou le pudding, alors on me dit de ne pas penser qu'à moi. On me dit de ne pas penser qu'à moi. » Alors qu'en fait, elle pense toujours à ses frères. Bon. « Apprenez cela, Rose, dit la mère. Dans les choses domestiques, nous n'avons que deux points à considérer. En premier lieu, ce qui se doit faire, et en second, ce qu'il y a de plus agréable aux hommes de la maison. Hein ? N'importe quoi fera l'affaire des femmes. » N'importe quoi fera l'affaire des femmes. Et un peu plus loin, le fils, lui, qui raconte cela à son ami, dit... Il a dit à sa mère que c'est un principe très avantageux pour nous, en effet, en tout cas, dis-je. Mais si vous voulez vraiment me faire plaisir, mère, songez d'abord à votre bien-être et à votre commodité. Si Rose ne m'éclairait pas de temps en temps, je recevrai donc vos bontés comme chose due, comme l'enfant Samo, hein, à qui la mère donne le sein tout de suite, et j'ignorerai toujours combien je vous dois. Voyez, bon. Pour tout vous dire, si j'ai cité ces choses-là, c'est parce que ça m'évoquait de façon extrêmement précise, et pourtant c'est un siècle plus tard, ce que j'ai moi-même connu pendant la guerre en Auvergne, en France. J'allais en Auvergne l'été, pendant les années de guerre, dans des fermes. C'était la seule manière que l'on avait de manger, disons, à sa faim. C'était des oncles et tantes de mon père. Et je me souviens fort bien. Ça a été aussi, alors là, à titre personnel et non pas à titre intellectuel, une des raisons de mes questionnements par la suite, c'était de voir à table que le maître de maison était assis avec les valets, les fils, etc. Et l'épouse ne s'asseyait jamais. Elle servait à table, passait son temps à aller du fourneau à la table en apportant les plats, la boisson, aller chercher le vin, l'eau à la source, les nouvelles tourtes de pain, etc. Et elle mangeait debout ce qui restait. Et ce qui restait, ça voulait dire qu'elle n'avait pratiquement jamais de viande. N'oubliez pas ce détail, très important. Jamais de viande, jamais de protéines. Et si je prends un troisième exemple... Je prendrai l'exemple de cité dans les travaux d'une femme sociologue qui enseigne à Sciences Po à l'heure actuelle, Madame Marie Durubella, et qui montre, à part un certain nombre d'études qui ont été menées au lycée, au collège et également à l'école primaire, Alors là, je cite un article, j'ai paru dans Le Monde hier, d'ailleurs, mais les travaux de Marie Durébella, je les connaissais par ailleurs. Elle a écrit un livre qui s'appelle « L'école des filles », paru à l'Harmattan. Nombre d'études montrent que les jeunes eux-mêmes diffusent les normes en matière de comportement approprié à leur sexe. Pour les filles, ces normes portent sur l'obsession de l'apparence et le comportement avec les garçons. Alors écoutez, c'est là où c'est intéressant. Avec ces derniers, il faut être pleine d'attention, comme Rose avec ses frères, hein, qui met du raisin dans les puddings parce qu'il faut qu'ils soient bien contents, et surtout, ménager leur susceptibilité, ne pas entrer en compétition ouverte. Une peur du succès freine donc les filles dans leurs investissements scolaires, dès lors que les stéréotypes largement repris par la presse pour adolescentes les convainquent que pour séduire, il faut abandonner ou masquer toute velléité de compétition ou d'affirmation personnelle. Donc après ces quelques exemples sur, vraiment très brefs, sur ce que j'appelle le formatage du genre, je vais vous successivement vous montrer dans notre société l'existence de cette valence différentielle des sexes dans nos comportements donc occidentaux actuels, mais en les prenant surtout dans des domaines, dans un domaine très précis, c'est-à-dire celui de la de l'enseignement, de la recherche, de l'ouverture à des carrières professionnelles intéressantes. Et puis j'expliquerai comment ce modèle s'est constitué et quand, et à partir de quelles contraintes, pourquoi il se transmet si aisément. Enfin, si le temps m'est laissé, ce dont je doute, en quoi il est en train de bouger et quels sont les principaux bastions de résidence dont je peux vous dire tout de suite en gros en quoi il consiste, c'est à savoir la vie domestique et familiale, et aussi la sexualité, le partage des tâches domestiques et la sexualité. Alors, pour ce qui touche donc les temps contemporains, savez-vous par exemple qu'un certain nombre de grandes découvertes qui ont été faites dans cette deuxième moitié du XXe siècle. Vous voyez, je ne parle pas de l'Antiquité, hein, je parle d'une période très récente. Ce sont des découvertes féminines, seulement elles n'ont jamais été reconnues. C'est-à-dire elles ont été détournées par des hommes. Bon. Ainsi, par exemple, l'anomalie génétique qui cause la trisomie 21. La trisomie 21, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ce que dans le public on appelle le mongolisme, bon, et qui pose un problème à l'heure actuelle avec le tri des embryons, le diagnostic préimplantatoire et la disparition éventuelle de cette anomalie. Bon, la personne qui a découvert l'anomalie génétique, c'est une femme qui s'appelait Marthe Gauthier, et on l'a jamais su. On commence à le dire maintenant. Parce que ces travaux ont été détournés avec l'accord du directeur de son laboratoire, du patron de son laboratoire, par un homme, Jérôme le Jeune. Et ce détournement fut avalisé par le patron parce qu'il était, dit-on, soucieux de renommer dans les publications scientifiques et dans les colloques internationaux, et que ça aurait été dévalorisé si on avait dit qu'il s'agissait d'une femme qui avait fait cette découverte. Il valait mieux que ce soit un homme. Pour la même raison, a été passé sous silence le fait que la découverte du virus du sida, c'est pas du tout le fait de Luc Montagnier. Luc Montagnier est le patron du laboratoire. La personne qui a découvert le virus du sida, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel l'année dernière, c'est Françoise Barré-Sinoussi. Mais tout le monde pense que c'est Luc Montagnier. Bon. Il y avait aussi Jean-Claude Sherman, mais Jean-Claude Sherman n'a même pas été récompensé, lui. Bon. Rita Levi-Montalcini, personne ne la connaît. Pourtant, c'est elle qui a découvert le facteur de croissance neuronale, une molécule vitale pour avancer dans la compréhension et le traitement des cancers et de la maladie de Parkinson. Vous voyez, je ne vous parle pas de choses anodines, je vous parle de grosses, grosses découvertes. Bien, ce sont des femmes, mais on les a créditées au bénéfice d'hommes. Et par exemple, à la place de Rita Levi, et quant à Rosalind Franklin, en plus, Rosalind Franklin, c'est elle qui a découvert la double hélice de l'ADN, ce qui est crédité à Crick et Watson, alors que c'est Rosalind Franklin. pour ne pas parler de Marie Curie. Marie Curie, si, on a reconnu ses travaux, mais on lui a refusé officiellement le poste de professeur à la Sorbonne parce qu'elle était femme avant d'être savante. C'est pour vous dire que les femmes ont énormément de difficultés à exister sur le plan scientifique. Si on parle de l'oblitération de la réalité, jusqu'à une période récente, jusqu'à il y a 20 ans à peu près, eh bien, quand on parlait en préhistoire, qu'on parlait des découvertes au néolithique, c'est-à-dire il y a à peu près 30 000 ans, un peu moins d'ailleurs, des grandes découvertes que sont l'agriculture, l'élevage, la forge, la poterie, le vannage, toutes ces grandes découvertes qui nous ont fait sortir du paléolithique, eh bien, on les met au compte du génie créateur de l'homme. Et c'est seulement, même Simone de Beauvoir reprend cela dans son livre. Elle le dit dans le chapitre sur la préhistoire en opposant la transcendance masculine à l'immanence féminine. Mais il se trouve que maintenant, on s'accorde à penser que la domestication des plantes cultivées, en fait, revient aux femmes. Parce que c'est elles, comme la répartition sexuelle des tâches faisait d'elles au paléolithique des collectrices, c'est elles qui rapportaient au campement des graines, des tubercules, etc., et qui ont pu observer par essai et erreur la croissance des végétaux et arriver à la domestication des végétaux. Mais pendant longtemps, on a mis tout cela donc au pur crédit des hommes. Or, il se trouve, si vous voulez, que les femmes ne sont pas par nature seulement capables d'exécuter et non de créer. Elles ne sont pas par nature disposées à ce qu'on appelle désormais le care, à la suite de Martine Aubry, mais ce n'est pas elle qui a inventé le concept, hein, il a été inventé aux États-Unis, c'est-à-dire le soin, l'écoute ou l'entretien dispensé aux faibles. Elles ne sont pas non plus par nature prédisposées aux tâches jugées humiliantes ou dégradantes, comme par exemple pétrir la bouse et le fumier au Yémen pour en faire des combustibles, ou bien s'occuper du lisier, ou bien encore nettoyer les toilettes, dont je vous signale, pour que vous en ayez conscience, que c'est encore aujourd'hui une tâche exclusivement réservée aux femmes dans les services d'entretien des grandes compagnies de transport. C'est-à-dire si vous allez à la SNCF ou dans les équivalents européens ou si vous allez dans les compagnies aériennes, vous avez des hommes, bien entendu, dans le nettoyage. Mais pour les toilettes, c'est exclusivement des femmes. Et donc, encore une fois, il y a un type de tâche qui leur est réservé. Or, elles ne sont pas non plus dépourvues d'ambition, de volonté de commandement, ni des aptitudes que l'on croit spécifiques aux hommes. Elles ne sont pas seulement des petites mains agiles. Les comportements socialement attendus de ce qu'on appelle le genre, sont un effet en fait de l'éducation et du formatage qui s'opère dès la naissance, car on n'élève pas les enfants de la même façon, comme je vous l'ai dit, selon qu'ils sont filles ou garçons. Et il est très aisé de manipuler ce formatage parce qu'il est présent dans l'esprit des deux sexes, et pas seulement dans l'esprit des garçons et des hommes. Il est présent dans l'esprit des deux sexes et nous le reproduisons sans même nous en rendre compte de façon implicite. Je vais prendre un exemple, de façon implicite, parce que la plupart des personnes adhèrent explicitement à l'idée qu'il s'agit de promouvoir des qualités qui seraient par nature dévolues à chaque sexe, ce qui est faux. Ainsi, par exemple, une expérience qui a été menée dans une université américaine, à Princeton, je crois, mais je ne garantirai pas, en section psychologie. Et cette expérience répartit des étudiants en psychologie en deux groupes, avec dans chaque groupe autant de garçons que de filles. Donc des groupes mixtes, garçons et filles, deux groupes. Et à chacun des deux groupes, on présente la photographie d'un bébé. Et c'est un bébé qui hurle, vous voyez, un bébé de 8 jours, mais qui hurle à plein poumon. On voit bien ce bébé, donc. Et au premier groupe, on leur dit, à chacun des deux groupes, on demande pourquoi le bébé pleure. Au premier, on dit, ce petit garçon pleure, pourquoi pleure-t-il ? Et aux autres, on dit, cette petite fille pleure, pourquoi pleure-t-elle ? C'est la même photo du même bébé. Bon. Ceux à qui on dit, c'est un garçon, pourquoi pleure-t-il ? Ils répondent, il est en colère, il est furieux, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il est en colère, il le fait savoir, il revendique. Et ceux à qui on présente une fille disent, elle a eu peur, elle est effrayée, il faut la rassurer, il faut lui remonter le moral, lui redonner confiance. Or, c'est le même bébé C'est donc pas dans la tête du bébé que ça se passe, c'est dans la tête, garçons et filles de chacun des groupes, qui adhèrent à l'image de la virilité et de la féminité. Le petit garçon ne peut être qu'un costaud en colère et qui revendique, et le bébé féminin ne peut être qu'une petite chose fragile qui pleure parce qu'elle a peur. Donc c'est évident que ce n'est pas le bébé lui-même. C'est le même bébé qui pleure dans les deux cas. Donc on a là un exemple particulièrement net de ce que je vous disais tout à l'heure concernant les bébés Samoa. Et par ailleurs, quand nous disons à nos enfants, ce qui n'est pas le cas pour vous encore, je le sais, mais autant vous mettre en garde tout de suite, quand les enfants demandent à leurs parents comment viennent les bébés, eh bien, qu'est-ce qu'on leur répond maintenant? Qu'est-ce qu'on leur répond en croyant faire scientifique, faire juste? On leur dit, papa met une petite graine dans le ventre de maman. Eh bien, vous allez voir, ce faisant, on reproduit un modèle archaïque de pensée qui a été repris par Aristote, qui dit que tout vient du père et non pas de la mère. Et on dit ça en disant que papa met une petite graine. Et s'il met une petite graine, c'est la graine qui fait le bébé, le corps de la femme n'étant qu'un réceptacle ou un matériau pour faire pousser la graine, mais n'étant pas quelque chose qui transmet. Pour ce qui est des tâches, si vous me permettez, je voudrais donner une petite anecdote personnelle pour sortir un peu de l'aridité du propos. On vous a dit que j'étais professeur au Collège de France. Ben le Collège de France est une institution qui a été créée sous François Ier. Bon, je ne vous dirai pas la date exacte, mais c'est pour vous dire que ça fait quand même longtemps. Et qui a une cinquantaine de professeurs qui représentent, disons, ce qu'on fait de mieux dans un certain nombre de disciplines. Bon. J'étais élue en 1981, et j'étais la deuxième femme, après Jacqueline de Romilly, qui a été la première. Donc on est à égalité entre professeurs élus sur nos compétences. Or, il se trouve qu'un de nos collègues, un historien très célèbre, Georges Duby, a eu l'idée d'organiser un séminaire pour les sciences de l'homme et de la société qui se tenait une fois par an dans un lieu en dehors du collège, très agréable, et où on se réunissait entre, disons, 20-25 professeurs des sciences de l'homme et de la société. On choisissait un thème que l'on pouvait tous aborder de par notre discipline. Alors le sang, le pouvoir, l'administration, enfin des thèmes très généraux, on pouvait tous avoir quelque chose à dire, soit qu'on soit historien, ethnologue, juriste, ou professeur de littérature, ou philosophe, on avait tous des choses à dire. Et la première année, c'était un endroit qui était dépourvu, c'était en 1985 ou 86, dépourvu de magnétophone, on n'avait rien pour enregistrer. Et on était donc 25 professeurs, dont j'étais. Et à la fin de la première matinée, Georges Duby dit, c'est fantastique, on dit là des choses extrêmement intéressantes, mais nous étions en confiance, on était entre nous. Il dit, c'est quand même dommage que tout ça se perde, il faudrait que quelqu'un prenne des notes. Vous ne voyez pas la suite? Et la suite a été immédiate, il s'est tourné vers moi, avec le plus grand naturel, il m'a dit, Françoise, vous ne prendriez pas des notes? Et ce à quoi j'ai répondu, Georges, je ne suis pas programmée génétiquement pour les prendre mieux que vous. Et personne n'a pris des notes. Chacun prenait des notes pour soi, du coup. Mais je veux dire que tout en sachant que j'étais leur collègue et leur égal, il y avait une tâche subalterne à accomplir. L'équation dans leur esprit, c'était tâche subalterne, c'est une femme. Et même si, à l'esprit, dans le cerveau supérieur et non pas reptilien, l'idée était, c'est une collègue élue dont la qualité est identique à la mienne, il y avait dans le cerveau reptilien cette autre équivalence, tâche subalterne égale femme, donc c'est à elle qu'on demande de prendre des notes. Donc c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas une question d'origine, que ce n'est pas une question de niveau culturel, on porte tous, inscrit dans nos propres personnes quelque chose de cette mentalité, de ces systèmes de représentation qui appellent à la vigilance, car nous devons en être conscients pour pouvoir lutter contre, pour pouvoir essayer de s'en sortir. Il faut déjà prendre conscience, et prendre conscience, ça veut dire être à l'affût, savoir repérer toujours et partout là où se situe la discrimination. Donc les compétences n'ont pas de sexe, pas plus que l'intelligence. Simplement, ces compétences, il faut pouvoir les acquérir et les exercer. Et c'est là que s'appliquent les discriminations. Ainsi, et c'est là aussi où on voit très fortement agir ce système de représentation. Par exemple, il y a quelque chose qu'on entend dire maintenant assez souvent, c'est que, et dont le prototype, c'est une phrase assez drôle qui a été prononcée par une directrice générale de la Banque mondiale au Nigeria, qui disait que si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, on n'en serait pas là aujourd'hui, au moment de la grande crise mondiale bancaire. En clair, si le monde de la finance était géré par les femmes, on n'aurait pas été dans la catastrophe. C'est là qu'il y a une erreur fondamentale, évidemment, parce que les femmes ne sont pas nécessairement et naturellement plus altruistes que les hommes, pas du tout. Elles sont semblables, mais on leur apprend que leur rôle est d'être altruiste, ce qui est tout à fait différent. Et donc, on les élève dans l'altruisme. Ainsi, il y a une brochure qui s'appelle « Le leadership au féminin », ce qui est un atout pour la performance de demain, ça c'est le titre de cet ouvrage, qui identifie des types de comportements, qui améliorent la performance organisationnelle. Bon, je le cite parce que j'ai horreur de ce genre de discours, mais qui améliorent la performance organisationnelle. Et dans ces 9 types de comportements, on dit que les femmes représentent les 5 premiers, et de façon très significative les trois premiers, alors que les hommes seraient plus forts dans les 2 derniers, surtout pour le tout dernier, et alors que les 6 et 7 sont communs. Alors, qu'est-ce qui est soi-disant plus féminin? La recherche du développement des autres et non pas seulement de soi, l'attente de la reconnaissance, l'exemplarité, l'imagination. Ensuite, en commun avec les hommes, il y a la prise de décision participative, c'est le 5e. À égalité avec les hommes, la stimulation intellectuelle et la communication efficace. En revanche, les hommes sont plus représentés, écoutez bien, dans la prise de décision individuelle et non plus collective, et dans le contrôle et l'action correctrice des autres, et non pas, comme pour les femmes, le développement des autres. Bon. Et donc, l'imagination, la stimulation intellectuelle, la communication efficace, qui relève de l'intelligence au sens large, sont donc partagées effectivement de la même manière. Et on montre que les hommes réussissent mieux dans la décision personnelle et le contrôle du travail des autres, et les femmes dans l'appui apporté aux autres et l'exemplarité de leurs actions. Ainsi, on traduit dans les comportements non pas une tendresse particulière parce qu'il s'agit de femmes au lieu d'hommes, mais de ce qui est attendu d'elles par la culture de leur société. Et les hommes sont également soumis à cette même attente, de façon inversée. C'est-à-dire on attend d'un homme qu'il prenne des décisions individuelles et qu'il contrôle le travail et qu'il régente le travail des autres. Et qu'on attend d'une femme, selon le modèle maternel, qu'elle prête attention et qu'elle aide, par son exemple, les autres à pousser. Eh bien, mais ce n'est pas parce qu'elles sont naturellement meilleures et plus altruiste, c'est parce que c'est ce qui est attendu d'elle. Et l'erreur de ce type d'étude, c'est de croire que c'est un effet de la nature. Non, c'est un effet de l'éducation. Ainsi, par exemple, Mohamed Younous, dont vous connaissez peut-être les problèmes qu'il a actuellement, puisque au Bangladesh, on vient de lui retirer la présidence de la Grameen Bank. Mohamed Younous est cet homme du Bangladesh absolument, qui a une idée formidable, qui consiste à prêter des petites sommes d'argent aux femmes dans des pays totalement pauvres, comme le Bangladesh. Et en prêtant des petites sommes aux femmes, il attend d'elles un remboursement, c'est des remboursements hebdomadaires. On passe dans les villages et on récupère la dette. Et ça permet aux femmes de monter des toutes petites entreprises et d'entretenir leur famille. Et on montre également, parce que c'est accompagné d'opérations d'alphabétisation, les femmes apprennent à lire et à écrire, et elles investissent collectivement pour faire des petits travaux d'intérêt local, la construction d'un puits, d'une école, d'un dispensaire, etc. Et Mohamed Younous, par définition, ça a commencé il y a 25 ans à peu près, cette histoire, et maintenant ça se fait même en France, hein, le prêt, ces petites sommes à des femmes, mais on prête aussi aux hommes. En revanche, Mohamed Younous ne prête pas aux hommes. Et il ne prête pas aux hommes, et pourquoi ? Eh bien, au motif que les hommes ne remboursent pas leur crédit, car au lieu de l'utiliser pour créer des entreprises, ils utilisent leur crédit dans des dépenses, ce qu'on appelle somptuaires, c'est-à-dire ils font des fêtes, ils achètent des vêtements, ils achètent des portables, ils achètent des motos, etc. Alors, une analyse qui a été menée de ce genre de fait par un économiste, Éric Le Boucher, on concluait qu'on pouvait montrer ainsi que la preuve était faite que les femmes étaient par nature meilleures et plus vertueuses que les hommes. Mais en fait, c'est faux. Là aussi, c'est une question d'attente sociale. Chaque sexe obéit à quelque chose qui est attendu d'elle par la société. Les femmes se doivent, par leur éducation, comme la rose dont je vous ai lu l'histoire, se doivent de se conduire et de consacrer leur temps et leur argent au bien-être de leur famille, au bien-être de leurs dépendants, au bien-être de la collectivité, alors que les hommes, eux, existent socialement par le prestige. Et pour exister par le prestige, eh bien, il leur faut avoir des biens somptuaires. Ce n'est pas du tout qu'ils sont moins bons, c'est parce que la société attend d'eux qu'ils soient prestigieux. Et le prestige, c'est d'avoir un portable et une moto, ce n'est pas de construire un puits. Et c'est la raison qui fait qu'à l'heure actuelle, Le Monde, par exemple, pouvait montrer il y a 2 jours que dans des pays très pauvres d'Afrique, il y a beaucoup plus de portables qu'il ne serait raisonnable qu'il n'y en ait, parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais il y a le portable. Bon, parce que le portable est un signe de prestige. Donc la surenchère entre les hommes oblige, les oblige vraiment à ces dépenses somptuaires, et ils utilisent donc leur argent en ce sens, et c'est ce pourquoi Mohamed Younous ne leur prête pas d'argent. Mais ce n'est pas une question, encore une fois, de nature, c'est une question d'attente de la société. On a pourtant cherché cette différence de nature, et on l'a cherché notamment dans les capacités intellectuelles des deux sexes, dans le discours scientifique. On en a cherché la preuve avec obstination. Pour Paul Broca, au XIXe siècle, la petitesse relative du cerveau des femmes témoignait de leur infériorité physique, entre guillemets, et de leur infériorité intellectuelle. Et puis lorsqu'on s'est aperçu que les critères de taille et de poids du cerveau n'étaient pas pertinents, on a cherché à le démontrer cependant, l'inégalité, au moyen de tests chargés d'établir la supériorité masculine sur des écarts différentiels d'aptitude, comme par exemple le lancer ou la réception de balles, la façon de se conduire dans un labyrinthe, des questions de ce genre. En fait, des questions toujours extrêmement tautologiques, mais je ne vais pas m'arrêter là. Bon. Alors si l'on regardait la situation qui est faite aux filles, dans notre pays, je parle bien d'ici en France, bien, les filles n'ont toujours pas les mêmes avantages pour poursuivre des études qu'ont les garçons. Elles représentent 20% des effectifs des écoles d'ingénieurs, 15% dans les plus prestigieuses écoles, selon l'association Grandes Écoles au Féminin. Et pourtant, parmi les obstacles que rencontrent les filles, il y a des obstacles faciles à lever. Le fait, par exemple, ça a l'air ridicule, mais qu'il y a très peu de places d'internat pour les filles. Alors, il y a des places d'internat pour les garçons, mais il n'y en a pas pour les filles. Donc, les grandes écoles étant à Paris, notamment, ou dans les grandes villes, les filles ne peuvent pratiquement beaucoup moins d'accès à la préparation des concours pour aller dans les grandes écoles, parce qu'il n'y a pas de places d'internat qui leur sont réservées. Et d'ailleurs, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a d'ailleurs été saisie très particulièrement de cette inégalité. On montre pas aussi par les résultats que les filles réussissent tout à fait remarquablement. Mais on est frappé, et notamment les sociologues Christian Baudelot et Roger Establé, qui ont beaucoup écrit sur ces questions, on est frappé si l'on observe des classes de seconde, et là je cite, c'est une citation, on est toujours frappé à réussite scolaire égale, par la moindre confiance en soi des filles et la surestimation de soi des garçons. Or, la surestimation de soi prépare aux compétitions à venir. Les garçons sont stimulés par la notion de classement et de concours. Il n'y a rien de génétique là-dedans, seulement la trace profonde d'une éducation très différenciée depuis le premier jour. Aux filles, les poupées, la dinette, les jeux d'intérieur, l'attention à autrui, le souci de la famille, la coopération à l'économie domestique. Aux garçons, l'extérieur, les sports, l'affrontement, les jeux de guerre, toutes activités propres à développer l'esprit de compétition. Comme vous le voyez à travers cette citation de deux sociologues, nous retrouvons là et le bébé Samo qui pleure et les expériences de Mohamed Younous. Les professions, je passe. D'après l'UNESCO, les deux tiers des 875 millions d'analphabètes dans le monde, eh bien, ce sont des femmes. Au Pakistan, par exemple, le taux d'alphabétisation est de 24% seulement pour les femmes, alors qu'il est de plus de 50% pour les hommes. Il est de 23% au Sénégal, contre 43% pour les hommes, etc. Et ce n'est pas une question de pauvreté. Ce n'est pas à mettre en rapport avec la pauvreté du pays, comme on pourrait le penser, mais avec la volonté d'éduquer les filles. Car des pays pauvres arrivent en fait à une quasi-égalité. 91% des femmes sont éduquées au Vietnam. C'est également le cas de 92% des femmes en Thaïlande, 94% des femmes aux Philippines. Ce sont des pays qui ont vraiment voulu atteindre l'égalité éducative. En Europe, en fait, si elles poursuivent de plus en plus longtemps leurs études, une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante montre que jusqu'au troisième cycle compris, les filles sont moins soutenues financièrement par leurs parents, en règle générale. Elles compensent les différences familiales de revenus par des activités occasionnelles et cependant, elles bénéficient moins que les garçons des emplois privilégiés que sont les stages rémunérés. Et puis, vous le savez, mais ça, c'était pas exactement le sujet de ce que je voulais vous dire. Si nous parlons du chômage, vous savez bien que ce sont les femmes qui représentent le plus de chômeuses et le plus d'emplois à temps partiel non consentis. Mais de cela, donc, je ne parlerai pas. Alors donc, c'est une situation que nous trouvons, y compris dans des pays développés comme le nôtre, qui continuent d'exister. Et si cette inégalité des sexes n'est pas un effet de la nature, quelle est sa raison d'être ? Eh bien, c'est un effet de la symbolisation, de l'obligation humaine de symbolisation, à partir de l'observation minutieuse qui a été faite par nos lointains ancêtres du genre homo, de faits biologiques, effectivement, irréductibles, ce que j'appelle des butoirs pour la pensée. Ces hommes du paléolithique, je vous disais d'il y a 300 000 ou 400 000 ans environ, quand ils émergent de l'animalité, ça prend des millénaires et des millénaires, qu'ils deviennent constructeurs d'objets, qu'ils ont acquis la station debout et progressivement le langage, ils doivent donner du sens au monde dans lequel ils sont plongés, au monde qui les entoure, et ils sont confrontés à un certain nombre d'observations et de faits qui sont là, présents, et qui ne peuvent pas être déconstruits. On est obligé de les prendre tels quels. Déconstruits, je veux dire, ils pourraient être découpés, analysés en éléments, de telle manière que ces éléments qui les composent puissent être rapportés et comparés à des faits déjà connus, maniés par la pensée, identifiés, répertoriés. Et donc ces faits massifs auxquels on est confronté, que l'on observe, moi j'appelle ça des butoirs pour la pensée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les esquiver. Vous êtes obligé de les prendre telles quelles et de vous en accommoder. Or, ces butoirs pour la pensée, ils étaient là au début de l'humanité, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ce sont toujours les mêmes. Et nous sommes toujours confrontés, hommes et femmes, de tout temps, y compris de nos jours, ces faits irréductibles ne sont les mêmes d'aujourd'hui. Et c'est l'agencement intellectuel qui a été fait de ces données centrales par le genre homo, cette intellectualisation qui a abouti à l'établissement de ce modèle archaïque dominant qui est la valence différentielle des sexes qui régit donc le rapport des sexes. Alors ça veut dire que ces hommes de notre préhistoire, ces êtres humains de notre préhistoire, en fait ils abordaient le monde non pas avec nos connaissances, celles que nous avons maintenant, mais uniquement avec leurs cinq sens, et ils avaient à créer la connaissance. Ils ont eu à créer progressivement la connaissance. Et donc, à quoi sont-ils confrontés ? À quel butoir pour la pensée ? Eh bien, la toute première, à mon avis, c'est l'observation d'eux-mêmes, de leur corps. C'est le corps qui est l'objet premier, hein, de la création de la pensée, et le corps des espèces, des autres espèces qui les entouraient, c'est-à-dire, en fait, les grands mammifères, ils ne sont pas intéressés aux insectes, si vous voulez, mais les grands mammifères. Eh bien, les espèces animales observables, elles se présentent sous des formes variées. Il n'y a pas de rapport entre une girafe et un rhinocéros. Bon. Mais ces espèces variées, qui sont différentes chacune l'une de l'autre, et différentes des hommes, et qui présentent chacune en leur sein des individus, qui sont chacun différents de leurs semblables, eh bien, toutes ces espèces sont caractérisées par une même séparation morphologique et physiologique qui oppose toujours de la même manière des mâles et des femelles. Vous avez des lions, des rhinocéros, des éléphants, des girafes, des humains, tous ont des formes différentes, présentent des individus différents, et il y a toujours cette même différence, le mâle et le femelle. Eh bien, cette constatation surprenante est à l'origine, selon toute vraisemblance, hein, c'est une hypothèse de ma part, de la mise en place par l'esprit humain d'une opposition fondamentale que nous faisons entre ce qu'on appelle le même et le différent, le soi et l'autre. Cette opposition, elle est fondamentale et elle est fondée sur la différence sexuée, sous son aspect réflexif. Si j'appartiens à une catégorie, tous les autres ne peuvent être classés qu'en même que moi ou en différent de moi. Et cette catégorie dualiste fondamentale, elle est à la base de tous les systèmes de pensée, elle constitue le moule de toutes les oppositions, qu'elles soient concrètes ou abstraites, qui nous servent à penser le réel dans toutes les sociétés. Il n'y a pas de langue, si vous préférez, qui fasse l'économie d'un système binaire de catégories de pensée, donc dualiste. Le chaud, le froid, le dur, le mou, l'unique, le multiple, l'actif, le passif, l'immanent, le contingent, etc. Il y a dans toutes les sociétés, vous ne pouvez pas faire l'économie de ces oppositions dualistes. Essayez d'imaginer dans votre langage de tous les jours comment vous pourriez parler si vous n'utilisiez pas ces catégories qui opposent des valeurs différentes. Or, ces oppositions dualistes, et c'est une chose extrêmement importante à noter, sont toujours connotées sexuellement dans l'esprit de ceux qui les prononcent, du sceau du masculin ou du sceau du féminin. Ainsi, si je vous dis en français, haut et bas, supérieur, inférieur, actif, passif, plein ou vide, etc. Il y a dur et mou, pardon ? Lourd, léger, etc., eh bien, le premier terme est masculin et le second est féminin. Nous avons une manière de penser les choses qui catégorise ces oppositions en masculin et féminin. Et de plus, et c'est là la chose extrêmement importante, ces catégories qui sont connotées du masculin et du féminin, elles sont valorisées dans nos esprits. C'est-à-dire qu'on considère que la catégorie qui est masculine est supérieure en valeur à celle qui est considérée comme féminine. Et, chose intéressante, cette valeur-là n'est pas propre au sens des mots, mais à la catégorisation en masculin ou féminin. Alors, je prends un exemple vraiment tout à fait classique dans nos disciplines. Si vous prenez la catégorie actif-passif, en français, actif est masculin et c'est positif, et passif est féminin et négatif. Et ça vaut aussi bien pour la sexualité que pour l'emprise sur la matière. On considère que l'activité est masculine parce qu'elle transforme la matière. Bon. Et elle est positive et elle est supérieure à la passivité féminine qui, elle, se contente du quotidien. Bon. Bien, si vous passez en Inde, par exemple, vous allez trouver que c'est le passif qui est masculin et l'actif féminin. Parce que dans ces sociétés, l'activité sur la matière, l'action sur la matière n'est pas primordiale. Ce qui compte, c'est la retenue de soi et de façon très explicite, la retenue de l'éjaculation. C'est-à-dire qu'un homme doit pouvoir se retenir dans les rapports sexuels et tous les rapports sexuels ne doivent pas nécessairement être fécondants parce qu'on postule qu'il y a une dotation masculine qui n'est pas qui ne doit pas être gaspillé n'importe comment. Et donc, l'art, c'est donc de faire durer l'acte, mais sans nécessairement éjaculer. Donc, on attend une certaine passivité masculine mais qui est une maîtrise de soi dans l'acte sexuel, et c'est celle-là qui est hautement valorisée. En revanche, l'action féminine est considérée comme brouillonne et inconsidérée. Donc, en Inde, c'est le passif qui est masculin, mais c'est le passif qui est positif. Et c'est donc le fait d'être... l'affectation au masculin qui rend les choses positives et non pas le sens que l'on donne... Que l'on donne aux mots. Alors pourquoi la hiérarchie est-elle venue se nicher au sein de cette simple balance de termes, de catégories qui nous servent à penser le monde et sans lesquelles nous ne pourrions pas penser le monde? D'ailleurs, imaginez ce qui se serait produit si la sexuation n'était pas apparue. Vous ne le savez peut-être pas, mais la sexuation est apparue dans l'univers, dans notre monde, à un certain moment. Et ce moment, il est daté, disons. Il est daté de à peu près 800 milliards d'années. 800 millions d'années. 800 millions d'années, pardon, quand même, j'exagère. 800 millions d'années. Avant, le vivant était simplement sous la forme d'amibes. Disons en gros d'amibes. Imaginez, la sexuation est apparue, on ne sait pas pourquoi. Les biologistes disent c'est parce qu'il y avait un avantage à la sexuation, parce que ça permet une recombinaison génétique et donc de sortir de l'uniformité. Mais imaginez que la sexuation ne soit pas apparue dans l'univers, mais qu'en revanche il y ait une forme d'amibe qui se soit développée, qui soit devenue intelligente, qui soit devenue fabère, enfin constructrice. Eh bien, elle aurait une autre manière de concevoir le monde que celle que nous avons, qui est fondée sur un modèle sexué. Et nous ne penserions pas de la même manière si nous étions des amibes savantes. Bon, c'est extrêmement important, à mon avis. Alors, pourquoi donc la hiérarchie est-elle venue se nicher dans cette balance-là? Eh bien, c'est parce qu'il y a d'autres butoirs pour la pensée qu'il fallait prendre en considération en même temps. Le deuxième butoir pour la pensée, c'est la connaissance du fait que s'il n'y a pas de rapport sexuel, que sans coït, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas d'enfant, que le coït est nécessaire. Et le troisième butoir pour la pensée, et celui-là, c'est vraiment le plus important, je crois, c'est la constatation d'une chose absolument inexplicable. Moi, j'appelle ça exorbitante. C'est le fait... C'est l'observation que les femmes ont la capacité non seulement de faire des corps semblables à elles-mêmes, c'est-à-dire de faire des filles, mais qu'elles ont la capacité de faire des corps différents d'elles-mêmes, c'est-à-dire elles font des garçons. En quelque sorte, imaginez, évidemment à l'époque ça n'existait pas, imaginez des moules à gâteau, si vous avez un moule à gâteau, vous attendez que ce qui sort du moule ait la forme du moule. Eh bien, imaginez le mystère que cela représente de voir d'un moule sortir quelque chose qui n'a pas la forme du moule. La question, c'est comment se fait-il que les femmes font des garçons? Bon. Et accessoirement, une autre question posée à cette humanité des premiers temps, qui est une question dont, messieurs, ici, vous saisirez toute l'importance, cette question, elle est extrêmement fondamentale, c'est à quoi servent les hommes? À quoi servent les hommes? Si la réponse était que les femmes font les enfants par elles-mêmes, garçons comme filles, à quoi servent les hommes? Puisqu'on n'a pas besoin d'eux pour faire des enfants, puisque c'est les femmes qui les font. Donc, devant tous ces butoirs pour la pensée, la réponse collective qui a été donnée, c'est pas une réponse proprement des garçons et des hommes, c'est la réponse des hommes et des femmes qui a été donnée, qui mêle les trois butoirs. C'est, il y a deux sexes, il faut du coït, et les femmes font les garçons et les filles. Comment font-elles les garçons et les filles? C'est parce que les hommes mettent les enfants dans les femmes. La réponse, c'est parce que les hommes mettent les enfants dans les femmes que les femmes deviennent inférieures, car elles deviennent, disons, ce que dans notre odieux langage d'aujourd'hui, on appelle des ressources. C'est-à-dire les femmes deviennent une ressource pour que les hommes puissent avoir des fils, parce que sans femmes, les hommes n'auraient pas leurs semblables. Donc c'est la raison pour laquelle, comme Lévi-Strauss le dit, la prohibition de l'inceste parle au masculin. car les hommes échangent entre eux des ressources féminines, leurs filles et leurs sœurs, pour avoir des épouses, pour avoir des fils. C'est la raison pour laquelle le président du Front islamique algérien dit, quand on lui dit qu'est une musulmane, il répond, une musulmane, c'est ce qui sert à un musulman d'avoir, pour avoir des fils. Le rôle d'une musulmane, c'est de fournir des fils aux musulmans. Eh bien non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que maintenant, nous savons bien qu'en fait, il y a des ovules chez les femmes et des spermatozoïdes chez les hommes, que c'est la rencontre des deux et le partage d'un patrimoine génétique qui fait un être nouveau, qui reçoit moitié de son père, moitié de sa mère. Mais tout cela, nos ancêtres de la préhistoire ne le savaient pas. Et nous non plus, nous ne le savions pas. À quel moment avons-nous connu l'existence des ovules et des spermatozoïdes? Je vous étonnerai peut-être si je vous dis que c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle que nous avons connu l'existence des ovules par De Graaf et des spermatozoïdes par Leeuwen Hoek, ou bien que ce soit l'inverse, peu importe. Mais enfin, on a découvert l'existence de ces gamètes seulement à cette époque-là. Avant, la question qui était posée, qui était traitée par de grands savants, c'était celle de la cuisson dans le ventre maternel d'enfants qui étaient mis par le genre, par le sexe masculin. Réaumur, le savant Réaumur, il traite de ça. Comment les femmes cuisent dans leur utérus les enfants qui sont le produit des hommes. Ainsi, on a donc cette réponse où ce sont les hommes qui mettent les enfants dans le corps des femmes. Ça, c'est la réponse la plus généralement trouvée. Et comment le sait-on d'ailleurs, je vous le dis en passant, à travers des mythes, les mythes que nous collectons dans les sociétés diverses et qui racontent cette répartition des rôles. Et puis, dans une deuxième formule, on dit que ce sont les ancêtres, ou bien les dieux, ou bien des génies, qui mettent des enfants dans le corps des femmes, elles naissent avec, mais ces enfants ne viennent au monde que s'ils sont arrosés par le sperme d'un homme, et à ce moment-là, ils descendent les uns après les autres. Mais les enfants sont déjà contenus en germe, donc dans la semence, dans le premier modèle. Et le modèle le plus pur, c'est donc celui où les hommes mettent directement les enfants dans le corps des femmes, et nous l'avons hérité à travers Aristote, à travers Galien, à travers des penseurs musulmans comme Avicenne et Averroès. Et c'est ce modèle aristotélicien dans lequel on dit qu'un homme qui est chaud par nature, il fait des fils qui lui ressemblent grâce à ce qu'on appelle le pneuma, c'est-à-dire le souffle qui est contenu dans sa semence. Et grâce à ces puissances, un homme possède trois puissances. Une puissance générique en tant qu'homme, une puissance individuelle, c'est parce que vous êtes cet homme-là et pas un autre, et une puissance en acte qui varie selon les moments du jour, les saisons, l'état de santé, la nourriture que l'on a pris, etc. Et quand les trois puissances sont réunies, dit Aristote, l'homme fait ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire un fils qui lui ressemble. Ça, les trois puissances vont dans le même sens. À supposer qu'il y ait la puissance générique, mais pas la puissance individuelle, mais il y a aussi la puissance en acte, il fera un garçon qui ressemble à sa mère. Bon. Et alors le pire, c'est quand il manque, sa puissance fait défaut dans les trois cas, générique, individuel et en acte, et à ce moment-là, il fait une fille qui ressemble à sa grand-mère maternelle. Voyez, donc il peut expliquer à la fois les ressemblances, la naissance de l'un ou l'autre sexe, à chaque fois par ce fait des puissances particulières des hommes. Et donc, et ce type de point de vue, qui est celui dont nous avons hérité via Aristote dans notre société, eh bien, nous allons le trouver répandu dans d'autres sociétés du monde, et sans que ça vienne d'Aristote, c'est parce que c'est un point de vue qui se nourrit de lui-même et qui est né donc de ces observations de la haute préhistoire. C'est le cas, par exemple, vous trouverez la même explication donnée chez les Navarros, les Indiens Navarros, que vous voyez dans les westerns en Amérique du Nord, mais aussi chez les Sabots du Burkina, chez qui je travaille, etc. Alors ainsi, les femmes ont été vues comme un matériau indispensable pour que les hommes puissent avoir leur semblable. C'est la raison pour laquelle ce sont des hommes qui échangent entre eux des femmes pour la création du social. Et cela entraîne, par définition, et là je vais être très brève parce que je voudrais quand même m'arrêter, pour qu'il puisse y avoir quelques questions, eh bien il s'ensuit toute une série de faits, qui assujettissent les femmes à la maternité et accessoirement aux besoins de la sexualité masculine, et pour maintenir les femmes dans une situation dont elles ne peuvent matériellement sortir, il a fallu réunir, et c'est ce à quoi les cultures se sont attelées, et s'ils sont parvenus, trois grandes conditions qui ont été réalisées jusqu'au XXe siècle dans toutes les sociétés du monde. D'abord, la privation de liberté. La privation de liberté pour les femmes. Et j'appelle la privation de liberté la privation de cette liberté essentielle de décider de ce qu'il advient de son propre corps. Dans la majeure partie du monde, encore aujourd'hui, les femmes ne décident pas de leur propre corps. Elles sont données en mariage, parfois très tôt, à 10 ans, elles ne décident pas du nombre de leurs enfants, elles ne décident même pas parfois de la possibilité d'être soignées, d'accéder aux soins, elles ne peuvent être soignées sans l'accord de leur mari, encore dans une partie du monde. Bon. La privation d'accès au savoir, les femmes sont reléguées au savoir domestique, c'est pour cela que la majeure partie des analphabètes dans le monde sont des femmes. Elles n'ont pas accès au savoir livresque, au savoir construit. C'est là une condition majeure pour obtenir la docilité, l'assentiment et même la coopération au système, parce que l'éducation est ce qui permet d'accéder au sens critique et à l'émancipation. Toujours se souvenir de cela, l'éducation permet l'émancipation, permet d'accéder au sens critique. Et troisièmement, la privation d'accès aux fonctions d'autorité et de pouvoir. Et cela, nous sommes toujours en plein dedans, y compris dans les sociétés occidentales. Les femmes sont privées de l'accès aux fonctions d'autorité et de pouvoir. Et c'est encore vrai, d'ailleurs, puisque vous savez, par exemple, que la Chambre des députés ne comporte chez nous que 13% de députés, pas plus, etc. Et pour ne pas parler de la situation dans les comités d'entreprise, puisqu'il a fallu une loi récente pour obtenir que, à l'horizon 2018, il y ait 40% de femmes dans les comités d'entreprise. Et c'est hier seulement qu'une femme rapporteur à la Chambre des députés a fait parvenir un rapport promouvant l'idée de 40% également de femmes par voie autoritaire dans les hautes instances de la fonction publique, et y compris dans les jurys d'accès aux concours. Donc les femmes sont privées aux fonctions d'autorité et de pouvoir, et cette privation est à l'origine du mépris et du dénigrement qui s'ensuivent. Alors il y a chez nous, donc, la privation d'accès aux fonctions d'autorité et de pouvoir demeure. D'énormes progrès ont été réalisés en Occident. Je n'ai plus le temps d'en parler. Je dirais simplement que parmi tous ces progrès, dont le premier date de 1882, puisque c'est l'instruction primaire rendue obligatoire pour les deux sexes. C'est pas si vieux que ça, hein, 1882. C'est le tout premier geste. Eh bien, dont le plus important est pour moi, l'accès à la contraception, parce que c'est ce qui permet, l'accès à la contraception, c'est ce qui permet de démolir le système là où il a été construit, c'est-à-dire il a été construit sur le fait que les femmes faisaient les enfants et ont été mises en sujétion pour faire les fils des hommes. Eh bien, le droit à la contraception leur donne la maîtrise de leur procréation. Et donc, c'est un droit particulièrement important. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est que, et de façon extrêmement brève, parce que je me rends compte que j'ai été beaucoup trop longue, c'est qu'il y a au moins deux autres choses sur lesquelles il faudrait vraiment insister. Le premier, c'est sur la nécessité, trois autres choses, la nécessité de l'enseignement, de l'éducation pour les filles. Deuxièmement, la nécessité de la laïcité, que cet enseignement soit laïque. Et troisièmement, et là je m'adresse particulièrement aux filles, la nécessité pour elles d'avoir confiance en elles, de savoir que ce qui se passe à l'heure actuelle, y compris dans l'enseignement, et je ne dis pas cela comme une critique aux enseignants dont je connais tout le talent et l'abnégation, mais c'est simplement le système qui veut cela. Les filles n'ont pas confiance en elles. Et ça ressort de toutes les études sociologiques qui ont été faites. Mais je voudrais vous dire, mesdemoiselles, ayez confiance en vous. Vous êtes capables. Vous êtes capables d'autonomie. Vous êtes capables de réussite. Vous avez les mêmes compétences. Vous avez les mêmes droits. Utilisez-les. Et si vous le faites, ben si vous vous en souvenez, vous en remercierez vos professeurs et même moi-même, incidemment, de vous l'avoir dit. Ayez confiance en vous. Allez toujours plus loin, visez toujours plus haut. Voilà, je vous remercie.
Asseyez-vous, voilà. Donc, on a une série de questions. Donc, si vous voulez poser des questions, vous levez la main. Je vous passe le micro, évidemment. Et puis, je redonne le micro à Madame Françoise Héritier. Je pense que le fil est assez court, donc on va vous demander de vous approcher un peu.
Bonjour madame. Tout à l'heure, vous parliez de balance universelle des sexes. Ouais, vous parliez de balance universelle des sexes. Au cours de l'histoire de l'humanité, est-ce qu'il y a eu une seule société matriarcale? Non, aucune. Aucune. Vraiment aucune.
Je vous ai dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et ce qui est venu de ces ancêtres préhistoriques qui étaient peu nombreux a été transmis de façon automatique et continue d'être transmis. Nous continuons à le transmettre. Et il n'y a pas eu de société matriarcale, même s'il y a des sociétés, disons, qui sont plus gentilles, hein, à l'égard des femmes que d'autres, mais de société matriarcale, il faut bien l'entendre, pour ce que ça veut dire. Matriarcal, ça veut dire le pouvoir entre les mains des femmes. Bon, des sociétés où les femmes ont intégralement le pouvoir et où les hommes seraient dans la situation inverse de celle du patriarcat, que nous connaissons nous, ça n'existe pas. Alors ça existe sous la forme mythique. Mythique, ça veut dire que les mythes essayent d'expliquer le monde tel qu'on le voit, à partir d'un monde qui aurait existé antérieurement, mais qui était mauvais et qui ne fonctionnait pas. Donc il y a des mythes qui disent « Autrefois, les femmes avaient le pouvoir, mais elles s'en servaient mal ». Alors, les exemples qu'on dit, par exemple, chez les Barouya de Nouvelle-Guinée, on dit « Autrefois, les femmes sont créatrices, elles ont inventé notamment l'arc et les flèches ». Mais quand elles s'en servaient à l'envers et elles tuaient leurs parents au lieu de tuer leurs ennemis. Donc il a fallu les leur reprendre pour s'en servir à l'endroit. Mais vous voyez, on connaissait le pouvoir créateur, mais on disait qu'elles s'en servaient mal. Donc des mythes de cette sorte, il y en a un certain nombre. Et chez les Onas de Terre de Feu, on dit effectivement que les hommes vivaient, je dis bien, en abjecte soumission, et puis que les femmes les terrorisaient en utilisant les rombes, c'est-à-dire des instruments qui rugissent comme si c'était des ancêtres, et elles s'en servaient pour menacer les hommes la nuit, et donc ils croyaient que c'était les femmes qui avaient le pouvoir de les croquer. Et puis un beau jour, il y en a un qui s'approche un peu près, les entend se moquer, et on va tuer toutes les femmes, sauf les petites filles, pour les élever au contraire dans la crainte des hommes. Donc des mythes, oui. Alors par ailleurs, ce qui existe... C'est ce qui existe dans certaines sociétés, ce sont des armées féminines. Alors, on s'est souvent servi de cet exemple pour dire... Il y a le mythe des Amazones, ça c'est déjà une chose. Mais il y a d'autres mythes, des réalités cette fois-ci, des armées féminines. Les Gaulois connaissaient des armées de jeunes filles, quelques jeunes filles qui accompagnaient les troupes, de même que les Dahoméens auprès du roi d'Abomey. Il y avait des troupes de femmes... certaines ethnies d'Amazonie, enfin des cas de ce genre. Mais ces femmes ont toutes une caractéristique particulière. Ce sont des femmes hors de la période de procréation, soit des jeunes filles prépubères, soit des femmes ménopausées. mais il y a une impossibilité pour les femmes en période procréative de faire couler le sang. Donc, ou alors, ça peut arriver comme dans l'avatar moderne du colonel Kadhafi, qui a aussi son corps de guerrière, que ce soit des femmes complètes, enfin, je veux dire, qui sont réglées, qui ne sont pas prépubères, mais elles sont célibataires.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si moi j'en ai une, alors du coup personne ne la pose, mais... Comment êtes-vous venu à devenir anthropologue et ethnologue ? Quelle rencontre ou qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui ? Parce que je ne sais pas si vous réalisez qui vous avez face à vous, vous élève, mais c'est une dame exceptionnelle. Ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit au Collège de France ou qu'elle soit anthropologue, mais c'est quelqu'un d'immensément respecté dans le monde entier. Quand vous parlez avec des gens étrangers et quand vous dites Françoise Héritier, c'est vraiment une stature. Alors moi, ce qui m'interroge, c'est comment vous aviez 15 ans en 1948, comment on envisage en 1948 devenir anthropologue, ethnologue ? Qu'est-ce qui a déterminé cette voie ?
En 1948, à 15 ans, je vous assure que je ne savais même pas que l'ethnologie existait. Alors je pense que c'est la même chose pour une partie de l'assistance. Et c'est vrai que lorsqu'on entend de façon très succincte les choses que je vous dis, la gêne peut entraîner le ricanement, il fait rire. Mais je vous assure, ce sont des choses très sérieuses. Donc je ne suis pas née être anthropologue, et j'ai mis longtemps avant de découvrir l'anthropologie et l'ethnologie, puisqu'encore une fois, j'ignorais même le nom, pour ne pas dire que j'ignorais... J'ignorais la chose, mais j'ignorais même que le nom existait, ethnologie ou anthropologie. Et donc, en fait, je me préparais à, si j'avais de la chance, à être chercheur en égyptologie, mais en fait, à enseigner l'histoire et l'histoire. Et je préparais l'agrégation d'histoire quand j'ai eu la chance, je dois dire, de rencontrer des camarades à la Sorbonne. Il n'y avait qu'une seule université à Paris à l'époque, à la Sorbonne, rencontrer des camarades qui faisaient des études de philosophie. Et en ce temps, il fallait faire un certificat de science. Je ne sais pas si vous le savez. Et ce certificat de science, ils choisissaient de le faire ils choisissaient l'ethnologie qui était enseignée au Musée de l'Homme. Et Lévi-Strauss était rentré d'Amérique et il suivait les enseignements de Lévi-Strauss et ils m'en ont parlé avec de tels trémolos que je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aille écouter ça. Et donc, je suis allée écouter les cours de Claude Lévi-Strauss à l'école des hautes études. Il avait une cinquantaine d'années, il me paraissait vieux. Donc, je suppose que je dois vous paraître vraiment une croulante de la dernière espèce. Mais enfin, bon, peut-être que quand vous aurez 70 ans, vous vous souviendrez que je vous ai parlé. Bon. Mais en tout cas, j'ai rencontré Lévi-Strauss et il enseignait sur des choses qui vous auraient vraiment fait rire. La première année où je l'ai suivi, il parlait du droit du neveu utérin sur les biens de l'oncle maternel, à Fidji, aux îles Fidji. Ça veut dire le droit qu'a un homme de prendre ce qu'il veut quand il va chez le frère de sa mère. Pas chez le frère de son père, jamais il pourrait, mais chez le frère de sa mère, il peut prendre ce qu'il veut. Alors un petit cochon qui passe par là, un chevreau, un vêtement, un objet qui lui plaît, et l'oncle ne peut rien dire. Et même, Il peut lutiner la femme de l'oncle maternel, et après la mort de l'oncle, il peut épouser la femme de l'oncle maternel. Ça vous paraît des usages curieux, mais en tout cas, ce sont des usages donc, qui existent à Fidji et également dans un certain nombre d'autres pays. Le mariage léviratique avec la veuve de l'oncle maternel, on le connaît en Afrique aussi, effectivement. Donc, il traitait de cela, c'était terriblement dérangeant pour moi. On parlait de choses dont j'ignorais totalement qu'il puisse exister. Mais au lieu de les considérer avec mépris ou avec une indulgence amusée, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre la logique de la chose. Parce qu'il y a une logique derrière. Il y a toujours une logique derrière. Et c'est cette logique qu'il essayait de nous dévoiler. Et l'année d'après, il nous parlait de la chasse aux aigles chez les Hidatsa, c'est-à-dire une population indienne d'Amérique du Nord, où pour être un jeune homme comme vous, à votre âge, là maintenant, messieurs, eh bien, vous savez ce qu'il doit faire ? Il doit partir à la chasse aux aigles avec seulement ses mains. Et donc, il monte sur la montagne. Sur les montagnes, il creuse un trou. Il met une clé au-dessus. Il le recouvre avec des objets, avec des herbes et des branchages. Il y met de la nourriture, de la viande. Et il attend qu'un aigle vienne se poser pour manger la viande. Il doit l'attraper avec ses mains. Et rappelez-vous qu'un aigle, ça a des serres et ça a un bec. Et il doit lui extirper 2 ou 3 plumes de la queue. Et ces plumes de la queue, il les portera ensuite sur le ruban qu'il a sur la tête. Vous voyez toujours les Indiens avec des plumes sur la tête, mais ces plumes, comment ils les ont obtenues ? Vous vous en doutiez peut-être pas ? Eh bien, il faut qu'ils aillent les chercher. Bon. Eh bien, la chasse aux aigles chez les Hidatsa, c'est le rituel pour faire des hommes. Bon. Eh bien, là aussi, c'était quand même quelque chose de très intéressant. Vous me direz qu'il n'y avait aucune raison pour autant que je devienne ethnologue. Mais, et c'est là un hasard miraculeux qui me fait vous dire aussi, mesdames et messieurs, que non seulement il faut viser haut, avoir confiance en soi et viser haut, mais surtout qu'il ne faut jamais hésiter à saisir sa chance quand elle se présente. Ne jamais se dire, mon Dieu, j'ai là mon petit bonheur à côté, j'ai ma voie toute tracée, surtout je ne vais pas aller voir ailleurs, bien sûr il y a cette possibilité, mais je ne sais pas où ça va m'entraîner. Allez-y, tant que vous pouvez le faire, allez-y. Suivez toujours, allez toujours là où la chance se présente. Et ma chance à moi, ça a été qu'un jour, Lévi-Strauss, à la fin de cette deuxième année, a dit à son auditoire, j'ai une proposition qui me vient d'un collègue qui a monté un institut de sciences humaines appliquées, et il recherche un ethnologue et un géographe pour partir en Haute-Volta pour une mission d'études appliquées. Eh bien, si vous êtes candidat, faites-le-moi savoir. J'ai un ami qui s'est présenté pour le poste d'ethnologue. Je me suis présentée, puisque j'avais fait histoire et géographie, pour le poste de géographe. Pour tout vous dire, j'ai été refusée parce que j'étais une femme. Parce que j'étais une femme. Et c'est par défaut de candidature masculine, au bout de 3 mois, que j'ai été acceptée. Ça a été mon premier terrain. Et après, évidemment, je n'ai plus jamais quitté. Donc je suis venue à l'ethnologie par la curiosité intellectuelle de la découverte tout d'un coup qu'il y avait des logiques sociales, et des logiques de l'idée, de l'esprit qui m'échappaient, et avec la révélation qui allait de soi aussi, que si il y avait des logiques, des situations extérieures qui m'échappaient, les gens qui étaient ailleurs et qui avaient ces logiques-là, devaient trouver tout à fait étonnante ma propre logique à moi. Donc il fallait que je regarde le fonctionnement de ma société avec le même regard éloigné. Et c'est cela la révélation. Donc, et encore une fois, ce n'est pas du tout hors de la portée de tout le monde. On peut tous y accéder. Il se trouve que les voies sont parfois étroites, que j'ai eu cette chance, comme j'en ai eu d'autres ensuite, par la suite. Mais ma double chance, ça a été de rencontrer Lévi-Strauss qui m'a ouvert les yeux et ensuite qu'il y a eu cette proposition qui m'a permis d'entrer dans la carrière. Et ensuite, ma foi, ben, je suis entrée au Centre national de la recherche scientifique et puis j'ai continué tout à fait normalement dans une carrière universitaire. J'ai eu la chance de tomber sur de travailler dans une société qui avait ses usages touchant à la parenté, à l'alliance, qui étaient si hors du commun qu'ils m'ont permis d'apporter une solution à un problème classique de l'ethnologie qui a été considéré comme une découverte. J'ai eu la médaille d'argent du CNRS en 1975 pour cette découverte-là. Et ensuite, ma foi, le Collège de France et puis voilà, le reste.
Bonjour. Selon vous, quel est le rôle de la femme dans la société africaine ?
Que voulez-vous dire, mademoiselle, maintenant ?
Karima, maintenant ?
Oui. Quel est le rôle maintenant ? Écoutez, fondamental. Fondamental. D'abord parce que je crois réellement que si les choses bougent, c'est parce que les femmes bougent. C'est parce que les femmes accèdent, même modérément, même dans des pays où elles n'accèdent que modérément à l'éducation, elles y accèdent de plus en plus, et que les choses bougent parce que les femmes y mettent la main et y mettent leur volonté. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle dans les pays du Maghreb. Bon, ce n'est pas du tout mon intention de parler politique, de parler de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte ou de la Libye. Mais ce qui me frappe, c'est la présence des femmes. Vous n'avez pas remarqué à combien, quand on voit des photographies de ce qui se passe sur la place Tabriz ou ailleurs, vous avez des hommes et des femmes. Alors qu'il y a encore quelques années, on nous montrait des photographies dites anonymes et asexuées. On nous présentait des soulèvements, des manifestations. On nous disait la foule manifeste à tel ou tel endroit. Vous regardiez, vous ne voyez que des hommes. Maintenant, non. Des hommes et des femmes. Et je crois qu'il est extrêmement important, ce mouvement féminin, à tout point de vue. Parce que c'est celui qui permet le développement. Mohamed Younous l'avait d'ailleurs très bien compris. Et c'est à partir du moment, pas seulement lui d'ailleurs, le prix Nobel Amartya Sen en économie montre de façon très explicite qu'il y a une corrélation entre l'accès des femmes à l'éducation et l'augmentation du niveau de vie, l'augmentation du niveau de santé, l'augmentation de l'hygiène, l'augmentation de toute une série de faits qui concourent au développement. Et c'est lié à l'éducation des filles. Bon, donc je crois que pour le moment, nous vivons quelque chose, bien sûr, de fondamental, qui est une révolution laïque dans des pays d'Afrique du Nord, mais qui est aussi l'émergence des femmes dans la vie politique dans ces pays. Oui.
Avant de partir, j'aimerais je vais remercier Madame Françoise Héritier d'être venue, parce que c'est un moment exceptionnel. Je peux vous dire qu'on en a très rarement, et donc j'aimerais que vous l'applaudissiez très fort pour la remercier d'être venue voir. On aimerait que quelques-uns restent pour ranger les chaises, s'il vous plaît.